Berger Oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs sur la fréquence de la paix. En marge de la journée de l'habitat célébrée le 6 octobre de chaque année, Parole aux auditeurs relance donc le débat sur les différents projets de construction présentés comme des logements sociaux et initiés par le gouvernement congolais à travers le pays depuis plusieurs années. Combien de logements sont-ils déjà construits? À quel prix s'obtiennent-ils? Et qui en sont les bénéficiaires? Tentative de réponse à ces questions avec notre invitée, Madame Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'urbanisme et habitat. Mais comment réagissez-vous sur cette thématique? Réjouissez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Éric Sidiakala à la technique, Julie Fezabongonda assure la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages, Zi Aliwa, Crispin, dit ceci, j'ignore le nombre de logements qui sont déjà construits. Certes, je suis très ravi de cette initiative qu'a pris notre gouvernement de penser aux maisons préfabriquées. Je m'inquiète du fait que si ces maisons peuvent remplir les conditions de l'eau et l'électricité d'une manière régulière, que le gouvernement pense aussi à la fixation des prix qui ne soit pas exorbitant, que ceci soit fixé en fonction des salaires que lui-même octroie à ses agents. Il y a Moulagiliro JC, dit ceci, tout le monde serait bénéficiaire de logements construits par l'initiative gouvernementale parce que, vu la hausse des prix des logements des maisons des privés dans la ville de Bukavu où j'ai vis actuellement et que je donne comme exemple, peut-être le gouvernement, par ces logements qui seront construits, permettrait aux étudiants que nous sommes de mieux vivre au cas où même le prix qu'il fixera répondra aux critères socio-économiques. Mesdames et messieurs, encore bienvenue à tous. Madame Bafalanga, nous sommes avec vous dans cette studio, vous êtes le secrétaire général à l'urbanisme et habitat. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, dans quel cadre s'inscrit d'abord le programme de construction des logements sociaux à ces jours? Nous débattons de ce sujet en rapport donc en marge de la journée de l'habitat qui a été célébrée le 6, donc c'est-à-dire le lundi passé.
Merci, monsieur Hier, pour la question. Je profite de ce micro pour saluer tous les auditeurs, les fidèles auditeurs qui nous suivent à travers les quatre coins de la République. Et je rappelle que le thème retenu mondialement pour la journée mondiale de l'habitat, qui a été célébrée le lundi 6 octobre, est donnant la voix aux bidonvilles, c'est-à-dire donnant la voix aux habitants, à nos compatriotes qui habitent des quartiers dits précaires, donc les bidonvilles. Pour revenir à votre question. Mmh. Oh oui, monsieur JR, c'est que le gouvernement ne cesse de déployer des efforts pour résorber les déficits en logement qui s'élèvent au moment où nous parlons à plus de 3 millions d'unités de logement. Il s'agit d'un déficit criant. Et vous êtes sans ignorer, même sous d'autres cieux, les gouvernements seuls ne peut pas résorber les déficits. C'est ainsi que le gouvernement, dans sa politique de production de logements, a offert un certain nombre d'avantages, même aux partenaires, aux investisseurs qui viennent, afin qu'ils puissent faire accompagner le gouvernement dans la production de logements. Là, je prendrai un cas type, c'est l'arrêté pris dernièrement sur le permis de construire, où nous avons réduit sensiblement à la baisse la taxe des bâtisses. Ça, c'est pour permettre à ceux qui aient incitation de production de logements par les partenaires ainsi que nos compatriotes. Puisque vous vous rappelez, à un certain moment, avoir une autorisation de bâtisses, c'était une casse-tête. Il fallait débourser énormément d'énormes montants pour payer la taxe y afférente ainsi que les différents frais. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec l'amélioration du climat des affaires, donc nous avons offert des opportunités pour que même les particuliers puissent accompagner le gouvernement dans la production
des logements. Et ceci dit, mais cela n'empêche pas que le gouvernement puisse faire quelque chose. J'ai suivi tout à l'heure l'introduction. Vous avez parlé de construction des logements dits sociaux. Pour rappel, en 2006, il y a eu un projet portant sur 4100 logements à travers la République, 10 logements sociaux. Et ces marchés-là a été confié aux entrepreneurs nationaux. Et vous êtes sans ignorer qu'à un certain moment, les travaux sont à l'arrêt. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Donc, c'est pour dire que le gouvernement fait un effort. Après 4100 logements, il y a eu 4002 logements. Si vous allez vers Kibumango, vous allez voir qu'il y a un chantier aussi. Il y a des maisons achevées qui sont là, et malheureusement aujourd'hui, qui font l'objet des vandalismes de certains de nos compatriotes. Donc, c'est pour dire que le gouvernement fournit aussi des efforts pour produire les logements.
Oui. Alors, madame, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde a salué de demain les efforts fournis par le gouvernement congolais.
Oui.
En quoi vos propos, il s'agit là donc d'un partenariat public-privé.
Ah, oui.
C'est-à-dire, on va encourager les privés aider, venir à l'appui au gouvernement congolais dans ses projets de construction des logements sociaux.
Exact.
Pour, en fait, réduire ces déficits qui tournent autour de 3 millions d'unités logements sociaux. Mais voilà. Alors, mais la plus grande question aujourd'hui, des privés, mais ils vont donner ces maisons à quel prix? À quel prix? Parce que c'est vrai, aux dernières nouvelles, si nous prenons les cas par exemple de site de motel Fikine, là où une compagnie chinoise en partenariat avec l'hôtel motel Fikine, disons à Fikine, pourrait construire des logements sociaux. On parle déjà d'un appartement de 2 chambres, n'est-ce pas, à 217 000 dollars déjà. Alors ça, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Oh, effectivement, M. J.R., je me pose la question, est-ce que vous avez eu cette information-là? Parce que jusque-là, au niveau de Sikine, on n'a même pas encore fixé le prix.
Mm-hmm.
On n'a pas encore fixé le prix. Nous avons les maisons témoins qu'on a construites. Nous sommes qu'à ce niveau-là. On n'a pas encore construit des logements sociaux. Je me demande, je me pose des questions, comment a-t-on déjà fixé le prix? Parce que ces maisons-là ne sont pas encore construites.
Mm-hmm.
Pour parler dans ce cas d'espèce de UGC, nous parlons logements sociaux, mais une ville ne peut pas simplement contenir les logements sociaux. À part les logements sociaux, il y a aussi des logements de haut standing. Oui, parce que la ville ne va pas être simplement constituée des logements dits sociaux. S'il y a ces logements-là dits de haut standing, mais il y a certains projets aussi. Il y a des projets où on parle carrément des logements sociaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement seul ne peut pas résorber les déficits, n'a pas les moyens conséquents pour résorber les déficits. Nous encourageons les particuliers. Je prends juste un cas des logements dits sociaux. Quand vous allez à la Cité de la Paix, excusez-moi, je vais parler parce qu'il s'agit de logements sociaux et ça se passe sur le média, il y a un particulier, un compatriote qui est en train d'ériger toute une cité, encore c'est une cité planifiée, qui rentre dans la politique actuelle du gouvernement. Créer des cités planifiées où vous trouvez tout là-dedans. Équipement, il y a des infrastructures, il y a tout. Cité de la Paix avec l'abbé Bagaza, ce sont des logements dits sociaux. Vous pouvez y passer, jeter un coup d'œil et on va vous donner...
Des maisons qu'on octroie à crédit.
Des maisons à crédit, c'est tout ça.
Oui.
À crédit.
C'est un objet de l'abbé Bagaza.
Voilà. Donc, ça, c'est un exemple, c'est un cas.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, ça rentre dans
l'activité
du gouvernement.
À l'abbé Bagaza.
Voilà.
L'octroi des terrains.
L'octroi des terrains, facilitation.
À être en record,
voilà.
Faciliter certains pour le paiement des
impôts. Voilà, voilà.
Pour permettre à ce qu'ils puissent donner...
Oui.
Est-ce que l'État a un regard sur les modèles de construction? C'est vrai, parce que là aussi, c'est un autre problème. Octroyer les sites, donner, faciliter le partenaire à pouvoir obtenir ces terrains, mais encore faut-il que l'État soit regardant pour que ces modèles, les maisons soient construites selon les standards universels et les standards que le gouvernement voudrait.
Affirmatif, M. J.R., parce que même s'il y a exonération, même s'il y a des avantages liés au code des investissements, cela n'empêche pas ce que les compatriotes ou ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme une seconde patrie puissent solliciter le permis de construire. C'est à ce niveau-là que le gouvernement a un regard attentifs sur les constructions pour que ces constructions répondent aux normes en matière, aux normes urbanistiques et en matière de construction dans notre pays.
Alors, c'est vrai, les cas qu'on peut déjà citer sur des constructions dites, disons, relatives aux logements sociaux, on peut citer les cas de sites Oasis, la Pépinière, on peut parler de la cité du fleuve, et oui. Également, comme je viens de le dire, le cas de motel Sikine. Alors, à ces jours, combien de logements sont déjà construits?
Oh oui, à ces jours, il faut donner les chiffres. Je sais que du côté de la cité Oasis ou la cité Joseph Kabila, nous avons un projet de 1000 logements. Mmh. Et du côté de Sikine, il y a 2000. Et de
cité du fleuve.
Oui, cité du fleuve, là, les chiffres exacts, je ne les ai pas. Mais au moins, vous voyez, parce que c'est visible, hein? C'est oui. Visible, vous voyez. Oui.
Mais voilà, et espérons que les projets doivent être étendus à travers le pays, parce que Kinshasa Seul n'est pas la République démocratique du Congo. Si nous avons 3 millions de déficits, donc ça, c'est dans l'ensemble du pays. C'est dans l'ensemble.
C'est dans l'ensemble du pays, oui. Mm-hmm. Ça ne doit pas s'arrêter simplement à Kinshasa. Pour votre information, nous avons certains. Nous sommes en pourparlers avec certains partenaires et il y a des dossiers en chantier. Il y a des partenaires qui sont prêts à les construire dans les provinces. Pas plus tard qu'hier, j'avais reçu en audience, c'est une délégation américaine qui veut construire. Et à Kinshasa et dans les autres villes de l'intérieur. Pour le cas d'espèce, il y a aussi un autre compatriote qui est en train d'implanter une cimenterie au Bas-Congo. Et à côté, il va y ériger tout un camp. Pour les personnels. Ce sont des initiatives qui nous encouragent. Donc, ce n'est pas simplement pour Kinshasa. Il y a encore un autre partenaire qui a dit que lui va construire, il va construire des cités. Des cités modernes dans les différents districts de la RDC. Et ce dossier-là est à l'étude d'ici peu. Vous verrez ce que ça va produire parce que c'est promettant.
Voilà, avant d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui vont intervenir aussi dans cette émission, laissez-moi, permettez-moi, Madame Falanga, de vous poser juste une question de curiosité. Pourquoi toutes ces constructions sont concentrées au centre-ville? En tout cas, c'est pour le cas de Kinshasa, par exemple, mis à part le projet de l'abbé Bagaza, mm-hmm. Mais il y a des terrains, il y a encore des espaces vides dans la périphérie, en tout cas là, vers Bandundu. Mais les gens préfèrent polier des terrains là où il y avait déjà des activités. Je prends les cités, la cité par exemple de Oasis à Bandalungwa, je parle de motel Sikine. Pourquoi seulement les centres-villes? Pourquoi ne pas aller construire des belles maisons en tout cas dans la périphérie pour permettre à ce que la ville puisse s'étendre un peu plus loin?
Monsieur Gilles, avant de répondre à votre question, je vais juste corriger en fait. Mm-hmm. Ils n'ont pas spolié. Mm-hmm. Ils n'ont pas spolié. Pour construire la cité Joseph Kabila, la cité Oasis, il ne s'agit pas d'un cas d'expoliation. Il s'agit plutôt de la cession de la part de la République, même pas cession, parce que c'est en partenariat. La République et le gouvernement contribuent par, en mettant les terrains, les sites à la disposition des partenaires. Mmh. Donc c'était juste la correction que je voulais apporter. Pour votre information, la politique du gouvernement actuel tend à ce qui est développement de la ville, extension de la ville vers Est. Donc vers Changu. Et pour votre information, il y a déjà un arrêté interministériel qui a été pris, mettant à la disposition des partenaires qui vont venir 459 hectares vers Est de la ville. Cela ne veut pas, c'est pour vous dire qu'effectivement toutes ces constructions ne vont pas se concentrer au centre-ville où c'est déjà saturé. Il y a même plus d'espace. Très saturé. Il y a même plus d'espace.
Parce que le problème sérieux aujourd'hui, c'est l'urbanisme. Quand on lotit, on ouvre de nouveaux quartiers, l'urbanisme, au fait, ne suit pas directement. Je donne des cas, par exemple, de la cité Beauvent, à Lingala, pour ne citer que ces cas. Aujourd'hui, quand il pleut, c'est désagréable.
Monsieur J.R., là, vous avez raison. Il ne s'agit pas d'un lotissement régulier. Quartier Beauvent, il ne s'agit pas d'un lotissement régulier. Je me rappelle en 2001, l'urbanisme s'était opposé. C'était opposé à ce qu'on puisse distribuer des parcelles dans ces quartiers. La preuve en est que les agents qui ont été mandatés pour ce sont les travaux de construction, ils ont été eux-mêmes séquestrés. s'entêtent à rien de nous voiler la face. Vous connaissez comment ça se passe. Vous comprenez comment ça se passe. Donc, l'urbanisme n'a pas accompagné parce qu'il ne s'agissait pas d'un lotissement régulier. Ça, c'est un terrain, disons, comme on peut dire, bloqué. C'était destiné aux équipements public. Et à ce titre, conformément au plan particulier d'aménagement de la ville, de ce coin-là, l'urbanisme ne pouvait pas accompagner les constructeurs. Ça, malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, comme ils ont construit à marge de la loi, voilà comment
non, ça un jour, l'État peut se réveiller pour dire, mais voilà, comme ils ont construit à marge de la loi, ils considéraient ça comme une construction anarchique. Bon, on n'en est pas encore là, ce n'est pas encore le débat du jour.
Ils ne sont pas.
Voilà, 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Nous évoquons la question à marge de la journée de l'habitat, célébrée le 6 octobre de chaque année. Donc, pour relancer les débats sur les différents projets de construction présentés comme des logements sociaux et initiés par le gouvernement congolais à travers le pays depuis plusieurs années. Combien de logements sont-ils déjà construits? À quel prix s'obtiennent-ils et qui en sont les bénéficiaires?
Parole aux auditeurs.
Nous recevons le premier auditeur qui est en ligne. Daniel, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Daniel.
Bonjour Pierre, bonjour les auditeurs de la radio de la FE.
Vous avez la parole. Comment vous réagissez par rapport à cette thématique?
En tout cas, je commencerai par vous remercier pour la parole. En ce qui concerne les logements sociaux, est-ce que notre pays a une politique claire et concrète sur la question? On nous parle à Kinshasa, ça a déjà commencé, mais ici à Lubumbashi, rien n'est encore fait. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a un problème. Ici à Lubumbashi, les gens sont fatigués des loyers exorbitants, des maisons, dans différentes communes. Alors, nous avons pris l'initiative de pouvoir se payer des lopins de terre, de morcellement à la périphérie de la ville pour pouvoir se construire chacun une maison selon ses moyens, à 2 pièces, à 3 pièces, selon ses moyens. Mais, au lieu d'encourager la population dans cette ville, il y a un problème d'autorisation de bâtir qui se présente. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour poser la question à notre invité. L'autorisation de bâtir concerne quel type de maison et quel genre de personnes. Parce que je ne peux pas comprendre, à la périphérie, quelqu'un est en train de construire sa maison à 2 pièces, il y a le service d'habitants qui apparaît, autorisation de bâtir. Quelqu'un est en train de se réceptionner avec un jeu de moyens pour payer des briques et ciment. Mais il est harcelé tout le temps par ces services de l'État. Ici, au Katanga, nous avons vu au travers des médias l'honorable feu, honorable Katumba Mwangi, qui a construit des maisons sociaux en photo. Là, c'était dans le cadre des partis de construction électorale. Et il est devenu très populaire et très apprécié sur ce point-là. Il a donné des maisons gratuitement. Mais c'est un chose que je pourrais faire dans cette émission.
Oui, allez-y.
Nous avons des entreprises minières ici. Ils peuvent contribuer aussi à de la construction de maisons sociaux pour leurs travailleurs. Ils peuvent construire des maisons à 2 ou 3 pièces. Pour les travailleurs, parce que ici au Katanga, les grandes entreprises étatiques que nous avons connues, le cas de la Gécamine, le cas de la Tobinico ou de la SNCC, aujourd'hui, je ne sais pas, à part les maisons que les gens ont bénéficié de la part de la Gécamine ou de la SNCC comme acquis, à part ces maisons, je ne vois pas ce qu'ils pouvaient bénéficier de toutes ces valeurs. Donc, les entreprises ont eu l'initiative de construire ces maisons aujourd'hui qui bénéficient aux gens. Mais actuellement, l'État congolais n'est pas en mesure de réaliser cette politique, à part peut-être pour des raisons de marketing politique, je ne sais pas.
Voilà, merci. Merci
beaucoup. Il n'y a pas de moyens pour le faire.
Merci beaucoup, Daniel. Daniel, merci beaucoup. Vous avez posé la question au début de votre intervention. S'il y a réellement une politique claire relative à la question, disons, sur les logements sociaux. Vous avez aussi souligné, en rapport avec la hausse de prix des taux de loyer à Lubumbashi, quelques cas, quelques initiatives privées qui se sont dégagées, prises par donc en fait les habitants eux-mêmes, les populations qui construisent en fait des maisons. Mais vous craignez, vous dénoncez une chose, c'est-à-dire l'autorisation des bâtis coûte énormément et ça ne permet pas ou ça ne favorise pas la construction en fait des initiatives des populations. Alors vous avez proposé pourquoi les entreprises minières qui évoluent en tout cas à bon et due forme au niveau du Katanga, qui ont investi, pourquoi ils peuvent ne peuvent-elles pas construire des maisons, par exemple, comme sous notre essieu, des maisons pour leurs agents? Ça permettrait aussi de résoudre quand même, de résorber quand même ces problèmes qu'a évoqué madame, relatif à ces déficits, donc l'unité de logements sociaux. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé de Lubumbashi. Jean-Luc, vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, je suis Jean-Luc Longolongo, je réagis à partir de Calémie au Katanga.
Vous avez la parole, Jean-Luc.
Merci pour la parole. Avant de développer mon intervention, je voulais poser à l'invité deux petites questions. La première, c'est de savoir si il a un plan de travail ou une cartographie claire de ce qu'il compte faire pour l'habitat à travers les pays. Si oui, est-ce que ce plan de travail est partagé avec le gouverneur de province qui représente d'abord l'État? Parce que pourquoi je l'ai dit, le gouvernement a de bonnes idées, de bonnes initiatives, mais le mal de notre pays, c'est quoi? Ceux qui conçoivent, ceux qui initient de bonnes idées croient qu'en évoluant seuls, ils peuvent réussir. Or, ce n'est pas vrai. Moi, je suis du ministère de la Santé. Dans tout ce que nous faisons sans participation communautaire, nous n'arrivons pas à réussir. Donc, ceux qui doivent comprendre, l'homme a droit au bien-être, l'homme doit vivre dans de bonnes conditions. Ils sont là, ils sont placés là comme techniciens du gouvernement pour nous guider et nous orienter. C'est pourquoi ils doivent participer à la base. Parce qu'en faisant participer à la base, il y a ces investisseurs qui sont dans des provinces. Il y a des contacts de plaidoyer que les gouverneurs de province peuvent mener et arracher de partenaires. Et qu'est-ce que le rôle du niveau central va jouer? Quel rôle? Je vais jouer le rôle de superviser, de coordonner et d'accompagner les exécutions. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est le budget de l'État qui va mettre en œuvre tout cela. Or, dans ce budget, tous nous contribuons, il faut une redistribution stable de la contribution générale dans les paniers. Et quand on redistribue, tout le monde doit se retrouver. Le mal est que beaucoup de choses se limitent par Kinshasa. L'exemple de Biche, depuis qu'on a commencé à servir Kinshasa, les autres provinces sont oubliées.
Voilà, merci beaucoup, Jean-Luc.
On est par les appels d'offres et il y aura des ténèbres qui peuvent s'inscrire. Pour encourager cela, ils doivent assainir réellement le climat des affaires. Parce qu'il y a un problème de taxes liées au pays.
Oui.
Une surtaxation, chacun peut se présenter en.
Voilà, vous avez Jean-Luc, vous avez rejoint la préoccupation de Daniel qui parlait tout à l'heure de l'État qui n'encourage pas les initiatives privées, notamment les populations qui construisent des maisons pour pallier à toutes ces difficultés. Et voilà, donc merci beaucoup Jean-Luc d'avoir posé cette question, et c'est une question très pertinente. Je crois que notre invité pourrait éclairer la lanterne de tous. Confiance, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jambo Mbosse Moyo, à tous les occupants de la radio de la paix.
Vous avez la parole, Confiance.
En fait, je reviendrai comme mes prédécesseurs, surtout Daniel, qui a posé une question précise, parce que je me rends compte que même si madame est en train d'esquiver la question sur le nombre, c'est de la même manière que nos autorités restent toujours évasives au sujet des bilans. Moi, je souhaitais être précis. 300 millions d'unités de logement.
3 millions
d'unités de logement, c'est pratiquement un déficit, comme elle l'a souligné. Et si on considérait environ 10 personnes, ou encore 6 personnes par maison, ça nous fait environ 30 millions de Congolais qu'on pourrait loger avec une bonne politique. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe vraiment une politique gouvernementale pour ce quinquennat de Joseph Kabila? À ce jour, il est à quel niveau? Quel est le bilan? Depuis que l'on a commencé cette mandature, est-ce qu'il y a eu une politique de logements sociaux? Et à quel niveau se trouve le bilan de cette politique? Est-ce que ce programme est budgétisé? Et à quelle hauteur? Parce que nous parlons toujours du budget qui est actuellement à hauteur de 8 milliards. Et est-ce que dans ce budget-là, il y a eu quelque chose qui est fait pour ces logements sociaux? Et quand on parle de logements sociaux, on voit le bas prix. Et pour une large ou une grande quantité de la population, généralement démunie, qui ne peut pas avoir le même moyen que ceux qui touchent des millions. Pourquoi ne pas parler de logements politiques au lieu de parler de logements sociaux. Et pour terminer, j'aurais souhaité, même si madame a encore d'une autre façon esquivé la question de 217 millions, je pense que la radio CAPI, c'est la radio
qui a des informations
bien fouillées, bien traitées, ainsi de suite. Mm-hmm. Les journalistes de la radio CAPI ne peuvent pas se permettre le luxe de dire n'importe quoi devant la télévision. Donc, ce qui s'est dit, 217 millions, en faisant le calcul le matin, je me suis rendu compte et je me suis posé cette question de savoir, c'est la question que je devais aussi poser à madame, est-ce qu'un fonctionnaire moyen qui touche 60 dollars peut se payer une maison qui coûte ce prix-là, c'est-à-dire environ 3617 mois de salaire et environ 301 ans de vie. Est-ce qu'un fonctionnaire moyen à ce prix-là, même s'ils sont en train de nier à 217 000 dollars pour une maison à deux chambres et salon, est-ce qu'il pourra le faire? Et en quoi est-ce que ces logements-là deviennent sociaux? Je pense que les autres questions ont été posées, mais moi je pense qu'il n'y a aucune politique dans ce sens-là, si ce n'est pas attendre seulement la veille des élections pour poser des actes et des actions qui seront encore inachevées, voilà. Pour demander à notre
confiance, mandat. Confiance, je crois que si j'ai bien compris et si je dois bien interpréter votre intervention, vous nous amenez à établir un bilan par rapport au projet, par exemple, de modernisation des infrastructures et notamment dans le cadre de création ou de construction de logements dits sociaux. C'est vrai qu'il entre, bien entendu, dans les quinquennats de cette mandature. Alors, vous avez dit, est-ce que ces programmes de ce quinquennat par rapport à ces constructions, ce programme est-il budgétisé? Bon, sinon, à quelle hauteur, pour vous faire peut-être une idée très claire? Alors, sinon, vous, les constats que vous avez faits, il s'agit là plutôt des logements politiques au lieu des logements sociaux. Je crois que c'est cela.
En fait, c'est beaucoup plus la question que je me suis posée de savoir un fonctionnaire moyen, quand est-ce qu'il aura cette maison
la capacité de payer des
moyens, un niveau de standing de vie moyen qui coûte 217 000 dollars pendant qu'on le paye 60 000. Donc, il devra vivre 300 ans pour s'acheter une maison comme ça.
Voilà. Comparativement, sous d'autres cieux, par exemple, pour ne parler que des États-Unis, Dallas notamment, où peut-être une house coûte, en tout cas, à crédit, 300 000 dollars à payer, donc à 30 ans, si vous faites les calculs. Ouais. Donc, pratiquement, vous avez 1000 dollars par année. Merci beaucoup, confiance, d'avoir appelé de Kinshasa, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre connexion internet est trop lente? RadioCapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. RadioCapi.net à votre service.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive et un échange citoyen. Voilà, nous avons dans ce studio Madame Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'urbanisme et habitat. Nous avons suivi, en tout cas religieusement, la première intervention, la première série des auditeurs. Alors, comment vous réagissez, Madame?
Merci beaucoup, Monsieur J.R. Et je tiens également à remercier tous les intervenants de tout à l'heure. Cela dénote de l'importance qu'ils accordent à ce secteur vital qui est l'habitat. Et comme on dit, si l'immobilier va, tout va. Et on sait aussi, les développements, les niveaux de développement d'un pays par rapport à l'habitat. Et je vais tenter de répondre, de rencontrer les préoccupations des auditeurs qui nous suivent. Je commence par M. Daniel qui est appelé de Lubumbashi. De Lubumbashi, il faut dire que le gouvernement n'a rien fait, les gens sont fatigués par des loyers exorbitants et des débuts pour construire. Mais j'aimerais souligner l'attention de notre compatriote, qu'il y a eu quand même un début, n'est-ce pas, de construction de logements sociaux. Il peut aller vers Kasungani, il va voir qu'il y a des logements, il y a des maisons sociales qui ont été construites, et à l'heure qu'il est, ces maisons sont occupées, parce que j'étais à Lubumbashi, j'ai dû visiter le site de Kasungani, et que nous comptons d'ailleurs, dont nous comptons plutôt relancer les travaux, cette fois-là avec les gouvernements provinciaux. Oui,
Nous souhaitons, au niveau de l'administration centrale, nous souhaitons que les gouvernements provinciaux puissent prendre la relève et que chaque gouverneur puisse plutôt prendre ces maisons ou continuer ses projets.
S'approprier
et continuer ses projets. RDD, il a posé une question pour savoir est-ce que les gangs petits ou ceux qui construisent dans la périphérie sont-ils aussi soumis à l'autorisation bâtir? Je dirais oui. Parce que la première des choses, la première raison d'obtenir un permis de construire une autorisation de bâtir, ce n'est pas simplement renflouer les caisses de l'État, mais c'est pour veiller que ces logements-là soient construits selon les normes en vigueur, pour que nos compatriotes aussi soient logés décemment. Et donc, nous les accompagnons. Pour que c'est tout le monde, même si on veut construire un logement de deux pièces, tout le monde est soumis à cette réglementation. Néanmoins, pour aider...
Au même prix.
Pas du tout, même pas au même prix. Pour aider, nous savons qu'il y a la catégorisation. Nous avons la première zone, une première zone qui concerne notamment comme Gombe, ici, bon,
résidentielles
dans des hauts standings, ils ont leur tarification. Il y a la deuxième, troisième. Bon, pour ces cas d'espèce, c'est la quatrième catégorie ou quatrième zone. Cela veut dire que ça ne représente presque rien. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les gens suivent les normes en construisant leur maison. Pour éviter d'ailleurs, il faut aller dans les périphéries. Vous allez voir que quelqu'un a construit sa maison avec une fenêtre, une petite fenêtre comme s'il s'agissait d'un poulailler. Alors l'air ne pourra pas passer et à la longue, il y aura des maladies, des maux de tête parce que les maisons ne sont pas aérées. Donc, s'ils sont soumis à ça, ce n'est pas une tracasserie, c'est plutôt pour qu'ils puissent vivre à l'aise, même si c'est une petite maison, mais qu'ils puissent vivre dans des conditions minimales.
C'est une façon de donner la voix à tous ceux qui habitent les villes.
Ah oui, effectivement. Là, il a proposé, il a fait une proposition. Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'au Katanga, nous avons quand même suivi. Il y a certaines sociétés minières qui construisent aussi des maisons pour les agents, pour le personnel. Nous voyons au travers le média, nous voyons, nous suivons. Et au niveau national à Kinshasa, vous avez suivi avec moi, non sans admiration, la cité de la SNEL. C'est le cas que nous soutenons, que le gouvernement soutient aussi.
Il y a la DGU aussi qui a
l'OTC, il y a l'INSS. Voilà. Tout le monde emboîte un peu le pas. Ça contribue à la résorption de ces déficits criants. Et ça permet à nos compatriotes, et surtout ceux qui travaillent dans ces sociétés, d'avoir des logements. Voilà. Aussi, il faut que je passe à la question de M.
Jean-Luc,
qui a appelé des...
La cartographie, il a parlé de la cartographie claire sur l'habitat.
Sur l'habitat.
Est-ce que ce plan est partagé avec les autorités, l'exécutif provincial?
On est en train de s'y mettre. Mm-hmm. Pour son information, le gouvernement a opté pour l'urbanisation participative, c'est-à-dire faire participer les communautés locales. Je vais juste prendre l'exemple du projet que nous avons. Nous avons un projet de développement urbain, PDI, et il y a ces projets-là, nous avons ciblé civil pilote, là où on fait participer les maires des villes, il y a les bourgmestres, il y a les communautés locales, tout le monde participe et nous tenons compte de toutes les préoccupations afin d'avoir l'adhésion de tout le monde à ce que nous allons faire comme travail. Puisque si tout se décide sur le plan national à Kinshasa, nous n'aurons pas l'adhésion des autres parties. Là, nous n'aurons pas à répondre à leurs préoccupations. Pour votre information, pour enrichir, il y a des équipes qui sont en mission, il y a trois qui sont déjà rentrées à Kinshasa. Le ministre a dû déployer à travers toutes les villes de la République, les chefs-lieux de la République démocratique du Congo, des équipes qui sont allées récolter des données. Elles sont en train d'avoir des séances de travail avec le groupe des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, les maires des villes, même le représentant de la santé parce qu'il a parlé de la santé, pour qu'ensemble nous puissions avoir sur base de ces données, qu'on puisse faire un travail fiable qui va rencontrer les préoccupations de tout un chacun. Donc, avant qu'il ne pose sa question, le gouvernement avait déjà
participé. Voilà, alors j'ai conscience de ça qui parle de ce programme. Instagram. Mmh. On a posé plusieurs questions. Hein. Est-ce que les fonctionnaires moyens sont capables vraiment de d'obtenir, en fait, d'avoir accès à ces logements?
Oui, monsieur J.R., merci. Là, je pense qu'au début, j'ai souligné que dans une ville, il n'y a pas que des logements dits sociaux. Nous avons des logements de haut standing aussi. Si la cité Oasis, hein, ce sont des logements de haut standing, vous êtes d'accord avec moi. Mmh. Mais au moins, à côté, il y a des projets dits des logements sociaux. Je n'ai pris que l'exemple d'un compatriote, la cité de la paix. C'est lui qui est le gouvernement en train d'accompagner. Oui, ça c'est vraiment social. Parce que là, après les échanges qu'on a eu avec l'abbé, il a même dit, monsieur l'abbé, il a même dit qu'il y a certains compatriotes qui peuvent prendre un crédit et par mois, pourquoi pas, 200 dollars par mois, si c'est possible, jusqu'à ce qu'ils auront apuré les montants. Ça, c'est pour dire que s'il y a des hauts standings,
il y a aussi. Il y a aussi de l'autre côté, il y a aussi des logements dits vraiment.
Et là, je suis administratif, hein, je ne fais pas la politique, comme il a dit. Bien sûr, la politique donne quand même des grandes orientations du côté de l'administration. Nous savons qu'il y a des partenaires, il y a des partenaires, même sous d'autres cieux. La production de logements se fait même par les ONG. Par les ONG, par les privés, pourquoi pas chez nous. Alors, ceux qui sont venus vers nous, il y en a qui sont prêts à produire ces logements-là dits sociaux, des logements dits sociaux. Et d'ici peu, je pense que 2015, comme j'ai eu à le souligner par, dans mon message à la Nation à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, en 2015, je pense que ça va, nous aurons à changer un peu d'idée. Je vais juste prendre un cas. Vous savez, quand on nous a dit qu'on va moderniser le boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, il y aura des routes. D'aucuns disaient, non, c'est la politique. On est en train de nous endormir. Mais aujourd'hui, si je me mets sur le boulevard Lumumba, il y a de quoi dire que, non, ce n'était pas de la démagogie, mais maintenant, nous voyons, c'est concret.
081-890-7315, on va encore repasser à nouveau de l'autre côté des standards pour accorder la parole à Marcel, Martin et à Jean.
C'est parce que Radio Capitaine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous vous recevons, Marcel, vous êtes à Paris, en France. Marcel, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les éditeurs de la radio Papier Auditrice et à Madame Bafalanga aussi. Ma question, je voulais poser la question à Madame Bafalanga. Où en est-on avec la promesse du chef de l'État sur la banque de crédit immobilier? Ma deuxième question, c'est que je ne comprends pas qu'il y a des lois en RDC qui n'est pas souvent appliqué, qui pourrait permettre à la population d'économiser, comme la loi sur la garantie locative qui est fixée à 3 mois et la garantie commerciale à 6 mois. Pourquoi aujourd'hui on n'applique pas cette loi qui pourrait bénéficier à 2 millions de Congolais pour vraiment épargner et arriver à faire des économies jusqu'à construire? Et ma deuxième aussi, c'est la loi de 1908 qui permet au gouverneur de province de fixer les loyers. Pourquoi on n'est pas appliqué aujourd'hui? Et ça permettrait à la population aussi aujourd'hui de parler et arriver à construire. Parce que Mme Bafalanga parle très souvent, moi ça m'agace un peu d'entendre, chaque fois on a besoin des investisseurs, pourtant la RDC peut créer des investisseurs, peut donner des moyens à sa population de construire. Et moi, la dernière préoccupation, c'était de savoir si l'accessibilité de ces logements construits, comment il y aurait-il un mécanisme pour permettre à la population d'accéder facilement à ces logements? Parce que après, nous savons comment marche la RDC. Ça va être le copinage, ça va être la famille, ça va être les gens, et les gens qui se connaissent pour s'accéder des logements. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est là pour donner cette facilité à tout le monde.
Marcel, parce que vous êtes à Paris, hein, ça pourrait peut-être nous aider, et selon nos informations, sous nos précieux même, et ce sont que des privés qui construisent, et l'État n'est pas, ne possède pas, en tout cas, des maisons dites sociales, comme vous disons, d'aucuns pouvaient le penser que, à un taux très fort. Ben alors, est-ce que vous êtes à Paris, est-ce que vous pouvez nous faire une idée, je ne sais pas si vous avez peut-être des informations par rapport à ça, est-ce que l'État français a combien de maisons aujourd'hui, dit logement social?
L'État a des maisons, mais il y a des entreprises qui travaillent avec l'État,
des partenaires
qui ont des maisons et voilà, qui donnent à des personnes. À ce moment, l'État est partenaire, c'est des entreprises publiques. C'est pas des entreprises privées comme
mais elle appartient.
Pourquoi c'est trop risqué? Nous avons vu aux États-Unis qu'est-ce que ça a créé. La banque avait des maisons et qu'est-ce que ça a créé? Parce que le privé, ils mettent des prix à l'air gré.
L'État
doit créer, par exemple, une entreprise qui devrait, qui, avec un fonds d'avance ou un fonds de garantie, qui construirait des maisons et donner à la population avec un fonds de garantie.
Alors, faites-nous une idée, je ne sais pas si peut-être qui pourrait éclairer la lanterne des uns et des autres. Un appartement à deux chambres, par exemple à Paris, social combien? À quel prix?
Le social, c'est social. À 324 euros, sans le charge.
324 euros, donc tout autour de 400 000 dollars à peu près. À l'achat? À crédit?
À l'achat, un logement social, à l'achat, c'est 160 000. Hein.
160 000 euros.
Voilà, F3.
160 000 euros, donc mettons tout autour de 230 000 dollars.
Voilà.
Donc c'est pratiquement le même prix.
Déjà une personne.
Donc si nous recouvrons encore à 217 000, bon, c'est lié. Voilà. Merci beaucoup, Marcel, de nous avoir fait cette idée par rapport à cette thématique. On va prendre Martin qui est à Kisangani. Martin, bonjour. Martin, vous êtes avec nous à Kisangani, bonjour. Voilà, le temps que la ligne de Martin s'arrange, je drop, vous êtes à Guéméla, bonjour.
Et bonjour, je voudrais dire ceci. Vous savez, il y a quelque chose que nous pouvons connaître. C'est laver ne signifie pas laver sa face pour présenter aux autres, mais c'est laver son corps à son entièreté. À chaque fois, ces histoires-là, quand ils se passent, ça se fait à Kinshasa. On a consulté les routes à Kinshasa, on a consulté l'hôtel à Kinshasa, on a consulté les cas à Kinshasa. C'est comme si on se lavait seulement la figure, sans tenir compte des autres membres du corps. Mais se laver là, on ne dira pas qu'on se met à peine se laver. Parce que les autres parties-là que nous considérons comme si c'est maîtrisé, mais ce sont les parties intimes qui peuvent faire alors le mal. Ce que je veux dire est que tous ces projets-là, depuis qu'on a commencé, ça se cantonne à Kinshasa. Même les routes, même les consultés de quoi que ce soit, ça se cantonne à Kinshasa. Si vous entrez à l'intérieur du pays et que vous regardez ce qui se passe à l'intérieur du pays, vous risquerez peut-être de pleurer. L'État n'a même pas où loger son personnel. Qui a propre à lui l'État, il ne sait même pas loger son personnel, il n'y a pas de route. Mais quand on dit donner aux Congolais une maison ou un abri, de deux chambres et salons à 217 000 dollars, posez-vous la question, le revenu de cette population est de combien? C'est un problème. Parce que si vous avez comparé avec celui qui a dit à Paris, en France, quand il dit à 230 000 dollars, le revenu de cette population n'est pas le revenu de la population congolaise.
Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque où les entreprises nationales fonctionnaient en plein régime, c'est vrai, on a connu aussi l'exploit réalisé, les succès réalisés par l'Office national de logement avec des fonds d'avance.
Oui.
Et certains de nos parents, en tout cas ceux qui ont vécu dans cette génération, ils ont bénéficié des maisons que nous avons appelées des maisons Onel, hein, à l'époque, avec avec la cité Cancito, pour ne pas citer ces cas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées à l'époque où les choses marchaient. Mais aujourd'hui, l'État répand du poids de la bête, petit à petit, on construit quand même, et avec des efforts, avec des moyens de bord, et aussi avec des moyens des partenaires, l'appui des partenaires, on arrive quand même à faire quelque chose, drop.
Oui, on se rappelle de toutes ces choses. Vous avez bien dit, on se rappelle. C'était dans le passé. Mais comment ces initiatives-là ont disparu petit à petit jusqu'aujourd'hui? On trouve des populations sans abri. Parce qu'il y en a nombreux. Certains, ça, vous ne les remarquez pas, mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, vraiment, c'est qu'il y a trop de sans-abri. Vous trouvez dans une famille où il y a une maison de 200 salons, mais plus de 10 personnes à l'intérieur. Posez-vous la question, comment est-ce que ces gens sont logés? Mais vous vérifierez, vous trouvez peut-être que la personne travaille chez l'État, ou il travaille chez l'État, mais il n'a pas là où il peut loger. En plus, les loyers coûtent cher à l'intérieur inutilement, parce que ceux qui construisent, les pères qui construisent sont comme s'il y a un type de gens là, qui peuvent construire. Les autres n'ont pas la capacité de construire parce que les revenus sont moins élevés. Si on rehaussait les revenus de la population elle-même pourrait se construire même des maisons. Si on dit à l'initiative privée, oui, qui est ce privé qui accepterait de venir construire, donner à crédit une maison, mais dont le revenu de cette population ne parvient pas à lui rembourser son argent pendant les délais qu'il pourrait fixer. Ça serait difficile. Il faut qu'on cherche d'abord à rehausser, à tenir compte de la politique sociale.
Revoir les salaires.
Tenir compte de la politique sociale en rehaussant le niveau de la rémunération de la population. C'est ce qui pourrait aider dans la population de faire une production et de faire aussi l'effort de construire pour eux-mêmes.
Voilà, rapidement, Martin, vous avez également la parole. Martin, bonjour. Martin? Voilà, Martin, vous êtes avec nous? Vous êtes en direct, Martin.
Oui, je vous appelle depuis Kisangani, monsieur.
Voilà, rapidement, votre point de vue. Et éteignez votre poste et récepteur, sinon ça fait un mauvais retour à l'antenne.
Ah, peut-être que la liaison téléphonique pose problème. Mais nous savons qu'il y a une initiative qu'on appelle 300 maisons ici à Kisangani et une autre à Bounia. C'est de Kisangani, c'est dans le quartier, si ma ça. À Bounia, c'est au quartier qu'on appelle Béré, juste à l'entrée de Bounia. Il y a des maisons qu'on a commencé à construire. Avant que je dise. Et alors, on se demande que ces maisons-là ne sont pas terminées. Et pourtant, nous, les populations d'ici, nous pensions que ça pouvait réduire un peu le coût du loyer. Maintenant, qu'est-ce que justifie? C'est ça la question que nous posons à notre invité du jour. Qu'est-ce que justifie que les maisons soient commencées pour ne pas les terminer? Et vous continuez à les construire ailleurs. Comment cela? Comment est-ce que vous pouvez expliquer le
sujet? Merci beaucoup, Martin. Samba, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gier.
Oui, c'est monsieur Gier, oui. Alors, Pamba, vous êtes en ligne, votre point de vue.
Oui. Oui, j'ai une petite préoccupation.
Oui, allez-y.
Je voudrais savoir quel est le grade d'un agent, un fonctionnaire de l'État, pour qu'il soit logé par l'État.
Voilà, merci beaucoup. Je crois que cette question, on va poser à notre invité, hein, pour vous faire une idée. Merci beaucoup, Famba. Alors, madame, c'est une question directe. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, si vraiment l'État avait des maisons, c'est à partir de quel grade qu'on peut être éligible pour avoir accès à un logement social?
Notre constitution veut que tout Congolais puisse bénéficier d'un logement. Et des questions qu'on se pose aujourd'hui des logements sociaux, commencer par fixer des grades, cela équivaut à dire qu'on explique carrément aux discriminatoires. Alors, ce n'est pas ça. Tout Congolais a droit à un logement.
Voilà, alors il y a un auditeur qui a évoqué les cas de logement. C'est vrai que nous avons eu à aborder la question sur l'ONEL. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Office national, revenir à l'Office national de logement serait l'idéal? Par exemple, relancer les activités de l'ONL.
Oui, l'ONL est déjà en liquidation. Mmh. C'est-à-dire relancer ou créer une société, comme il l'a dit. Comme il a dit, créer une société, oui. Mais c'est bien, j'aimerais souligner à l'endroit de nos compatriotes qui nous suivent que la RDC, c'est un vaste chantier. C'est un grand chantier. Tout est en chantier. Donc la RDC, c'est un vaste chantier. Vous comprenez que en une seule fois, nous ne pouvons pas résoudre ou relever tous les défis qui se posent. Le gouvernement ne peut pas en une seule fois. Donc nous y allons petit à petit, étape par étape. C'est ce que j'aimerais souligner à l'endroit de nos compatriotes. Bien sûr que ça fait mal. Une telle société serait la bienvenue. Pourquoi pas dans l'avenir, nous allons
songer carrément à ça, comme il y a des partenaires qui viennent, comme l'État aussi a eu quand même des initiatives.
Mais il faudrait que l'État soit un peu regardant par rapport aux partenaires aussi. Vous avez suivi un auditeur qui a évoqué les cas de Bounia, par exemple. 300 maisons à Kisangani, 300 maisons à Bounia, les travaux commencent, ça s'arrête quelque part. Alors, il faut vraiment des mesures draconiennes pour permettre à ce que les partenaires s'assurent.
Monsieur Gilles, aujourd'hui, je pense que ça, c'est à mon humble avis. Quand nous recourons au privé, pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que quand ils construisent, il s'agit de détirer un peu de bénéfices. Ils vont arriver jusqu'au bout. Ces maisons-là, 300 maisons à Kisangani et à Dele et Bounia, c'était sur financement du gouvernement, financement propre, du trésor public. Malheureusement, on est tombé, comme vous venez de dire, sur certains compatriotes qui ne sont pas tellement sérieux. Il y en a qui ont pu faire quelque chose, il y en a qui n'ont même pas mis une pierre, je vous assure. Et au moment où nous parlons, ils se posent des questions, pourquoi ces maisons de Kisangani ne sont pas achevées. Moi, je dois dire ici, il y a quelqu'un, pendant que le gouvernement fait un effort pour résorber les déficits, pour construire, il y a d'autres compatriotes qui s'illustrent par des spoliations, et cela avec le concours de la justice. Au moment où nous parlons, il y a un compatriote qui a un jugement sur cette concession-là de 300 maisons de Kisangani. Il a un jugement comme quoi ça lui appartient, et il commence déjà à vendre ses maisons au vu aussi de tout le monde. Voilà ce que nous déplorons.
Et à Kinshasa, il y a également un tel cas. Je ne sais pas si on peut parler d'escroquerie. Il y a une entreprise avec des juifs, et à la gare centrale, même des maisons qui ont été construites vers la télé de la Gombe. Bon, il y a des gens qui ont déjà payé à l'avance, mais aujourd'hui, les travaux sont arrêtés. L'entreprise, les sous chaperons.
Ça, c'est l'initiative purement privée. Ça, c'est un privé qui a fait et qui a pu. Ça, le gouvernement n'est pas
la prenante. Il y a un terrain à la gare centrale, donc, en face.
Oui. Et il doit avoir acheté. Donc ça, ce sont des arrangements purement privés. Ça, c'est pour dire que le gouvernement essaie de faire quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, partenariat public-privé, l'investisseur qui vient, on lui offre tous les avantages liés aux investissements. Là, il nous accompagne sans problème. Mais quand c'est le gouvernement qui met un montant en jeu, voici comment se comportent nos compatriotes.
Mais au cas où le partenaire ne répond pas, en tout cas, aux exigences du gouvernement, mais il faudrait quand même qu'on les traduise en justice.
Effectivement.
Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a des victimes, des gens qui ont payé de l'argent, et puis finalement, il s'agit là d'un cas d'escroquerie.
Mais je pense que ces gens qui ont payé leur argent, qui sont censés escroquer, la justice est là pour eux. Ils n'ont qu'à saisir la justice.
Voilà, c'est base. Il s'agit des rakines. Voilà, je suis
le nom. Sur base des accords passés, ils n'ont qu'à saisir la justice. Pour qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. C'est le conseil que je peux leur prodiguer.
Voilà. On vous donne juste un mot de conclusion. Raymond est à Kisangani. Raymond, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Rapidement, en 30 secondes, parce qu'on a plus assez de temps, et puis madame va conclure.
30 secondes, c'est très bon. Presque, je vais dire ceci. Je salue personnellement madame la secrétaire générale, qui est notre invitée. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que nous, les Congolais, nous avons l'habitude de transformer la signification des mots ou des termes. Et on dit ici qu'on veut construire des logements sociaux. Mais ces logements sont sociaux à quoi? Les prédécesseurs ont déjà tout dit, ils ont déjà même donné des exemples et tout ça. Alors je me demande, de 270 000 dollars, même elle-même, la secrétaire générale qui est notre invitée là-bas, sous secrétaire générale qu'elle est là, elle ne sera même pas bénéficiaire de ces logements-là, pour lesquels elle est en train de prendre langue. Alors, hier, c'était la même chose. Hier, on a constitué on a organisé un séminaire par la fonction publique. On a intitulé ce séminaire « Séminaire international de haut niveau ». Mais vraiment, qu'est-ce que cela veut dire? Comme si tout ce que nous avions déjà organisé ici, ce sont des séminaires de bas niveau. Maintenant, voilà un de haut niveau. On change toujours le thème. Alors, je vais revenir sur ce qu'on appelle
En conclusion, quelle est votre préoccupation, Raymond? Voilà. On est obligé de prendre vraiment.
De prendre un crédit. On vous dit non, vous donnez 270 000 dollars, et le lendemain, après un mois. Mais logements sociaux, c'est pour qui? C'est pour... On ne comprend rien.
Voilà, on comprend votre préoccupation.
Alors, aujourd'hui, maman, Rafalanga nous amène encore son terme urbanisation participative. Qu'est-ce que cela veut dire, tout ça?
Merci beaucoup, Raymond. C'est une question directe. Alors, madame, on va conclure avec vous, madame Thérèse Baflanga. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'appréhension dans cette histoire. Mmh. C'est vrai, il faudrait quand même que les choses soient tirées au clair. Hein. Logements sociaux, partenariats public-privé, qui vont en bénéficier, et à combien ça va coûter par rapport au revenu d'un citoyen moyen. Bon, voilà, bref, il y a autant de questions. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Aujourd'hui, il s'agit d'un partenariat. Les projets vont s'étendre à travers le pays et cependant c'est inscrit sur quelle durée et est-ce que le programme est budgétisé, voilà, donc à quelle hauteur.
D'accord, monsieur J.R., merci pour toutes ces questions. Et là, j'aimerais plutôt remercier les intervenants parce que ça montre vraiment l'importance qu'ils accordent à ce secteur. Je venais de suivre le tout dernier qui a dit, même moi-même, secrétaire général, je n'aurais pas accès à ces logements. Et j'ai dit qu'il a raison, effectivement, je n'aurais pas accès. J'ai appuyé tout à l'heure, j'ai dit, une ville ne peut pas être simplement constituée des logements dissociés, il y a aussi des logements au standing. Si c'était Oasis, ce sont des logements au standing, mais au moins il y a des logements, il y a des projets de logements dits sociaux. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, la RDC, c'est un vaste chantier. Nous allons étape par étape. Comme ils disent, tout est concentré à ça. Mais je suis en train de constater que même, ils reconnaissent quand même qu'il y a des initiatives au niveau des provinces, à Bounia, ainsi de suite. Et pour le monde de la fin, ça ne sera pas le monde de la fin parce que c'est un débat qu'on doit ouvrir encore, qu'on doit relancer. J'aimerais tout simplement dire que nous ne pouvons pas désespérer. Le lendemain sera meilleur et encore une fois, j'invite mes compatriotes à y croire et à espérer. Merci, J.S.
Allô? Mais il ne répond pas.
Voilà, nous disons merci à Thérèse Baflanga, secrétaire générale à l'Urbanisme et Habitat, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Étienne Sidiakala qui a assuré la mise en œuvre de ce programme. Julie Fesa-Bongonda a réalisé cette émission coordonnée et présentée par J.R. Ngembo sous la supervision de Ben Kabamba. Vous pouvez réécouter ces programmes sur www.radiocapi.net en rediffusion tout à l'heure dans la soirée. À très bientôt pour un autre débat. À bientôt.